Antoine Robitaille. Antoine Robitaille. Une entrée privilégiée dans le Parlement.
Ce que les ministres n'ont pas voulu dire, Antoine va vous le dire. Cultivez votre savoir. Comprenez les décisions. La nouvelle façon de parler politique.
Là-haut sur la colline.
J'accueille maintenant Éric Montigny et Pascal Mayotte, les auteurs de ce livre, La conquête du pouvoir, titre énigmatique, mais au fond, c'est comment une troisième voie politique s'est imposée au Québec. C'est un livre, un récit, hein, haletant quand même. Moi, j'ai bien aimé. Je vous présente Pascal, donc deux conseillers politiques. Pascal, plutôt au départ au Parti québécois, mais aussi chez François Legault, très récemment. On dit même que Pascal est parti avec la boussole de François Legault parce qu'il l'a quitté avant les dernières élections. On en reparlera. Éric Montigny, évidemment, qui est co-auteur de ce livre, qui est professeur à l'Université Laval en sciences politiques, mais qui était de la naissance de la DQ jusqu'à quand, Éric?
Jusqu'au départ de Mario.
Ah, donc en 2008, exactement.
Avec une petite pause pour faire mon doctorat entre deux élections.
C'est bon. Un livre haletant. On va parler de la naissance de l'ADQ d'abord. Ce qu'on oublie souvent, parce qu'on a le souvenir du dernier ADQ, c'est le nationalisme qui a mis au monde l'ADQ. Parle-nous-en un peu, parce que c'est ce qu'on redécouvre, je pense, dans ce livre.
Absolument, Antoine. Le récit débute avec l'échec de l'accord du lac Meech. Hein.
Ben oui.
Moi, je suis un enfant de Meech, Pascal aussi. On a été marqué comme génération par les grandes conférences constitutionnelles, les grandes manœuvres constitutionnelles et les échecs associés à cette volonté de réparer un peu l'erreur de 1982 où le Québec a été exclu de la Constitution canadienne, où il n'a pas été signataire de la Constitution canadienne. Donc, ce récit-là s'amorce effectivement par des discussions, des débats à la suite de l'accord du lac Meech, à l'intérieur même du Parti libéral du Québec.
Où parce il y a une que vous étiez des libéraux, c'est ça?
Absolument.
L'ADQ est né de la cuisse du Parti libéral.
Absolument. Moi, j'étais à l'époque jeune militant, mais j'étais aussi jeune recherchiste au cabinet de M. Bourassa. Donc, j'ai vécu tout cet épisode-là de l'échec de l'accord du lac Meech de l'intérieur, à la fois de la commission jeunesse, mais aussi du cabinet de M. Bourassa. Et ça a été des moments très, très intenses. Et peut-être pour ça que tu dis que c'est haletant dans le livre, c'est effectivement une période effervescente de l'histoire du Québec où on avait l'impression d'écrire l'histoire un peu à chaque jour. Et c'est fort un rebondissement, là, cette période-là de l'histoire.
Oui, absolument. Mais j'en reviens pas que vous ayez quitté le Parti libéral. Tu le dis, Éric, tu as travaillé au cabinet de Robert Bourassa. Qu'est-ce qui vous a donné, je dirais... l'audace de quitter comme ça. Tu nous l'expliques, tu nous le fais comprendre, mais je ne reviens pas. Là, surtout quand on essaie de convaincre Mario Dumont en lui disant « Ah, tu as un bel avenir au sein du parti, là, ça ne serait pas une bonne idée de quitter. » Qu'est-ce qui a été le déclencheur?
On était jeunes et fous et rebelles. Je pense toujours un peu rebelle, un peu fou, mais moins jeune. Mais blague à part, c'est une question de conviction et de principe. Hein. Faut comprendre le contexte. L'échec de l'accord du lac Meech, c'était une volonté de réconciliation. Puis là, on parle beaucoup avec le décès de M. Mulroney de cette période-là. C'était une volonté de réconciliation. Et cet échec-là a amené le Québec à développer avec la commission Bélanger-Campeau, avec les consultations au sein du Parti libéral, une réponse à cet échec-là qui allait dans le sens d'une plus grande autonomie du Québec. Et ça, c'est incarné par le rapport à l'air. Donc, à l'intérieur même des instances du Parti libéral du Québec, ce rapport-là a été adopté massivement. Il y avait des dissidents. Effectivement, M. Ryan était contre. Il y a eu des débats. Et c'est devenu le programme officiel du parti. Et les jeunes composaient, ils composent toujours au sein du Parti libéral, le tiers des voix. Et il y avait un poids réel des jeunes dans le parti. Et quand est arrivé, à l'été 92, un accord, parce que toute la démarche prévoyait un référendum à l'automne, c'était la loi 150, référendum dans la loi 150 adopté par les libéraux qui prévoyait un référendum sur la souveraineté. Hein, qui a été amendé pour faire plutôt porter le référendum sur une entente de Charlottetown qui, aux yeux même des gens qui militaient pour le rapport à l'air, n'était pas à la hauteur. Ce qui fait qu'on a même fondé le réseau des libéraux pour le non. On se disait toujours libéraux à l'époque.
On ouais, a fait parce que la DQ est créée après. Là.
Absolument.
Vous
donc,
le montrez bien.
On crée le réseau des libéraux pour le nom, avec un logo même du Parti libéral. On fait campagne dans le parapluie du nom à l'entente de Charlottetown. Et c'est après qu'on quitte officiellement le Parti libéral, parce qu'il y a des gens qui étaient toujours sur l'exécutif. Là. Mario Dumont, Marie-Claude Barrette, par exemple, était sur l'exécutif du Parti libéral. Et il y aura vraiment un tribunal après le référendum.
Ah oui, hein?
Où on veut expédier, où on veut, si on veut, chasser ces rebelles du parti. Donc, c'est l'exode de l'aile nationaliste du Parti libéral.
C'est ça.
Puis après, ben, on voit ce que le Parti libéral devient, mais c'est un Parti libéral qui a plus cette aile nationaliste comme elle l'avait auparavant.
Vous vous mettez pas enceinte dans ce livre-là, c'est-à-dire que vous racontez l'histoire, et donc, à l'époque, Pascal Mayotte, t'es où et qu'est-ce que tu fais?
Moi, je suis un militant du Parti québécois. Alors, je regarde ça de loin, cette gang de jeunes qui quittent le parti politique est au pouvoir. Quand même, c'est pas banal. Là. Pour fonder leur propre parti, on se demande un peu à quoi ça rime, ce groupuscule. Là, puis on est à peu près certain que ça ira nulle part parce que il n'y a pas d'option là, autre que celle de la souveraineté pour nous versus c'est le fédéralisme. Alors, on semble dans un bipartisme perpétuel au Québec.
Mm-hmm. C'est ça. Il y a eu des illustres prédécesseurs à cette troisième voie de la DQ. Il y a aussi un autre parti qui est né de la cuisse du Parti libéral. On peut dire que c'est le Parti québécois.
Absolument.
René Lévesque a quitté le Parti libéral, même s'il est allé chercher des morceaux d'autres partis. Puis il y a l'Action libérale nationale dans le temps. Est-ce que c'est un vieux rêve, ça, la troisième voie, comme vous l'appelez, parce qu'on va reparler, on va parler de la CAQ un peu plus tard, Pascal Mayotte?
Mais c'est une aspiration qui est profonde dans l'histoire du Québec. L'autonomisme, là, c'est pas Jean Lair qui l'a inventé ou Mario Dumont. Mm-hmm. Il y avait aussi le mouvement d'affirmation nationale au Parti québécois qui était porté par Pierre-Marc Johnson. On peut relier là, la troisième voie là, à cette mouvance. D'ailleurs, il y a une filière péquiste, un fait méconnu, hein, qui a participé à la fondation de la DQ.
Je sais, j'ai lu ça, puis j'avais oublié ce fait-là, qu'il y a des Johnsonistes qui ont joint les gens, les libéraux comme Éric Montigny et Mario Dumont
et qui ont
pour
joué,
créer la DQ. Donc, il y a des sources multiples, il y a toutes sortes d'ADN dans cette ADQ naissante.
Oui, absolument, absolument, absolument. Puis il y a des gens qui n'ont jamais fait de politique aussi. Donc, on le relate dans le livre. Au congrès de fondation, il y a des gens qui voient les nouvelles à la télé puis qui débarquent puis qui vont venir s'impliquer parce qu'il y avait sentait le besoin d'avoir une nouvelle option puis de s'engager. Ce congrès de fondation là qui fête ses 30 ans aujourd'hui, ben ça avait été un succès contre toute attente là. À quelques mois d'une élection générale, hein,
oui.
On était pressé par le temps. Et petite anecdote, il y avait un débat sur comment les gens du parti allaient s'appeler.
Oui.
Ça allait être quoi le nom finalement?
Grâce à Normand Delisle finalement.
Absolument, parce que Normand Girard, lui, voulait qu'on s'appelle les pots de cul. Je peux vous dire qu'on n'aimait pas beaucoup ça. C'est le journaliste, Normand Delisle, un journaliste aussi aguerri, qui finalement avait tenté le mot adéquiste. Et quand Jean Lair avait vu ce nom-là, il a dit tout de suite, ben, c'est ce qu'on prend. Puis il avait commencé le congrès en disant, chers amis adéquistes, et c'est resté. Parce que à l'origine, les gens disaient, on voulait se faire appeler les démocrates, Action démocratique du Québec et ça. Nous, comme les solidaires ont réussi à se faire appeler les gens de Québec solidaire ont réussi à se faire appeler les solidaires.
Oui, moi, j'essaie que ce soit les QSistes, mais ça marche pas, mon truc. Et la coalition Avenir Québec a bien essayé de se faire nommer les coalisés, hein, c'est ça, Pascal Mayotte?
C'est drôle comment les histoires se répètent, puis il y en a plusieurs comme celle-là, hein, à travers le chemin de la DQ, puis ensuite celle de la coalition Avenir Québec, parce qu'effectivement, on avait cru, nous, pouvoir se faire appeler les coalisés. Mais finalement, on s'est rendu compte que c'est pas nous qui avions le pouvoir décisionnel là-dessus, c'était vous, les journalistes. Et ça s'est avéré être les caquistes, finalement. Et on a appris à vivre avec ça, même si au début, ça sonnait un peu bizarre. Le nom s'est normalisé.
Parlez-moi, Pascal Mayotte, parle-moi de la naissance de la coalition Avenir Québec parce que toi, tu étais là dès le départ avec François Legault, même avant la création du parti.
Oui, en fait, moi, j'ai connu François Legault à l'époque où je travaillais pour Lucien Bouchard au cabinet du premier ministre. Là, on est dans un contexte qui suit le référendum de 95, un deuxième nom. Alors, on commence à remettre en question la conception binaire de la politique québécoise, bipolaire. Parce que, bon, un deuxième nom, puis un personnage avec l'ascendant, puis la force puis la puissance de Lucien Bouchard, qui est premier ministre du Québec à ce moment-là, finit lui-même par reconnaître son incapacité à atteindre, à mener le Québec à la terre promise. Alors, François Legault et d'autres ont participé ou ont vu des événements, une séquence, une évolution, puis ont fait le constat d'une impasse de la question référendaire.
Mais 9 ans plus tard, quand il quitte le PQ, c'est en 2009. Et il était très, très souverainiste jusque-là.
Oui, puis moi aussi et plusieurs autres, on a voulu y croire jusqu'au bout. Mais à un moment donné, les faits objectifs se révèlent à nous, qu'on n'y parviendra pas. Et François Legault fait le constat qu'on doit trouver un autre moyen de faire avancer le Québec. Alors, on est un petit groupe là qui allons se réunir chez lui les vendredis en jouant au billard puis en discutant après qu'il ait quitté le Parti québécois et qu'il ait quitté la politique pour de bon. En tout cas, c'était son intention initialement, mais je pense que le goût finalement est revenu assez vite là, d'être dans l'action politique. Et là, germe l'idée de fonder d'abord un mouvement. En fait, initialement, c'était même l'idée de faire un blog pour discuter de la politique. C'est devenu rapidement l'idée d'un mouvement, puis finalement, l'idée d'un parti politique s'est imposée. Et c'est ce qui est la genèse, si on veut, de la coalition Avenir Québec. On est en 2010, là.
Oui, c'est ça. Ouais. 2010, 2011, le mouvement, puis 2012, le parti. Et le parti va rapidement avaler l'ADQ. Et là, il y a une phrase, moi, de Gérard Deltel, parce que j'ai vécu ces événements-là comme journaliste, et que vous rappelez dans le livre, l'ADN de l'ADQ se retrouve dans la CAQ. Est-ce que c'est ton impression, Éric Montigny, que l'ADN de l'ADQ est à la CAQ? Parce que j'entendais Mario Dumont l'autre jour en entrevue avec Richard Martineau, puis il voulait pas se prononcer là-dessus, ou même qu'il semblait nier. Il dit, il y a des personnes qui sont là, mais... Il semblait nier. J'aimerais avoir ton opinion. J'ai pas eu l'impression d'avoir la réponse dans le livre.
Là-dessus, on est plus... Mario, moi, on est peut-être plus nuancé dans le sens que... ou plus divergent sur l'analyse des choses. Il y a un contexte très, très précis de la création de l'ADQ. Contexte économique, générationnel aussi, de la génération X qui a de la misère à se trouver de l'emploi sur le marché du travail.
Oui.
Où plusieurs sujets étaient tabous, hein. Le remboursement de la dette, par exemple, il ne fallait pas parler de ça.
Ah, ça! Vous montrez que c'était au cœur de l'affaire, ben oui.
C'était au cœur de l'affaire, hein. Puis, tu sais, la société québécoise a tellement évolué, on est parti que c'était tabou d'en parler, que là, c'est grave de faire une dette. Donc, le changement, l'évolution de la société québécoise, sur cet enjeu-là, il est majeur. Mm-hmm. L'autre élément, puis ça, je pense que l'ADQ a beaucoup...
Est-ce qu'il y a un bout d'ADN, là? De l'ADQ dans la CAQ, parce que là, ils viennent de nous endetter 11 milliards.
Non, mais c'est tout à fait. Je me rapporte au premier budget là, de la coalition Avenir Québec, puis on le souligne dans le livre. Dans le premier budget, il y avait une mention d'abord de Mario Dumont et de Lucien Bouchard sur les efforts d'avoir amené ce sujet-là à l'agenda.
Ouais.
Ça, c'était M. Girard qui l'avait fait. Il y a une étude de Luc Godbout qui analysait les précédents budgets, que pour la première fois, il y avait un gouvernement qui avait atteint l'équilibre budgétaire, non seulement l'équilibre budgétaire, mais l'équité intergénérationnelle en termes de dépenses versus de taux d'endettement. Il y avait ça. Maintenant, il y a le dernier budget, puis on sent qu'il y a, même dans certains députés, je pense, une volonté de retourner à l'équilibre budgétaire.
Ton propre frère est député de la CAQ, Éric. Ouais.
Absolument. Donc, j'ai pas entendu ces prises de position sur cet enjeu-là, mais l'autre enjeu, par exemple, c'est un autre exemple, en termes de franc-parler ou tabou brisé. Guy Laforêt, je me souviens très bien de Guy Laforêt, qui était président de l'ADQ, candidat à l'élection 2003.
professeur de sciences politiques.
Professeur de sciences politiques à l'Université
Laval. Un maudit bon prof. Moi, je l'ai eu comme prof en sciences.
Ah oui, absolument. Laval, c'était un spectacle, aller à ses cours. Hein. C'était vraiment 3 heures de pur bonheur. Ben, Guy Laforêt avait fait une déclaration puis une prise de position assez ferme en 2003 sur le décrochage scolaire des garçons.
Ah oui.
Et ça avait créé une polémique incroyable. Et cette polémique-là, ben, il se faisait traiter tous les noms. On ne pouvait pas parler de ça. C'était antiféministe de dire ça. Mm-hmm. Alors que cette semaine ou la semaine dernière, on a annoncé au gouvernement, M. Drainville a annoncé un tableau de bord avec des données sur le décrochage scolaire des garçons, l'opposition officielle aussi.
Un autre bout d'ADN.
Il y a des thématiques qu'on retrouve. On l'oublie aussi, mais il y a, puis même si le temps a passé, ça fait quand même une quinzaine d'années que Mario Dumont n'est plus en politique. Ben, il y a 4 ministres du gouvernement actuel qui ont déjà été candidats de la DQ. Malgré le temps. Donc, le contexte politique change, les enjeux peuvent changer, mais il y a... Puis l'autonomisme, ben, c'est un... qui a pris une autre forme avec la CAQ, que le rapport à l'air, mais qui était un leg de la fusion avec la DQ, c'était dans les conditions de la fusion.
Faut peut-être l'avoir vécu de l'intérieur pour davantage le sentir, cet ADN de la DQ, mais c'était pas du tout envisagé initialement d'avoir une alliance ou encore moins de fusionner avec la DQ à l'origine de la CAQ. Mais les événements ont rapidement imposé cette option-là. Les deux parties pouvaient pas coexister sans se livrer une compétition ensemble, puis ça a ramené à nulle part. Alors, il y a eu cette fusion, puis l'influence de la DQ a toujours été marquante. Pas juste, Éric mentionne là, qu'il y a 4 ministres là, dans le Conseil des ministres qui sont des anciens, mais il y a quand même beaucoup aussi de personnel
conseillers
qui proviennent de la DQ et pas les moindres. Et dans les corridors des congrès, on croise énormément d'anciens ADQistes là, qui occupent des rôles importants dans les instances. Alors, les idées de la DQ sont très présentes à la CAQ. Des dogmes même comme l'allergie aux structures, ce qui découle en fait d'une certaine remise en question du modèle québécois. C'était assez explicite à la DQ, ça l'est peut-être moins à la CAQ, mais c'est très présent, la remise en question du modèle québécois, et ça se traduit dans le présent mandat par plusieurs actions.
Je reviens à votre titre, la conquête du pouvoir, ça n'a pas été facile pour François Legault, ça y a pris 3 élections. Et il y a un point tournant, Pascal, et que vous racontez dans le livre, mais que Pascal, tu m'as déjà raconté, c'est la défaite de Chauveau qui va amener au changement du fameux logo. On part du cacatoès, comme j'ai toujours dit, espèce de truc multicolore bizarre, et on revient à du bleu avec une fleur de lys.
C'est le moment charnière. À ce moment-là, la CAQ, on peut dire, atteint le fond du baril. Puis le parcours avait été assez laborieux du reste là, depuis sa fondation, malgré certains succès d'estime. Une performance honorable pour une première élection de 2012 avec 27% des suffrages puis une vingtaine de députés. En 2014, on frôle la catastrophe, mais de manière miraculeuse à la faveur d'un débat des chefs. François Legault était absolument extraordinaire. La CAQ sauve la mise et retourne à l'Assemblée nationale avec 22 députés. Mais là, c'est la catastrophe. Une élection partielle après le départ de Gérard Deltel. La CAQ perd Chauveau, qui était le château fort, imprenable, jugé imprenable. Et là, après avoir pris quelque temps pour panser ses plaies, François Legault réunit ses proches conseillers pendant l'été, puis là, on met tout sur la table, là. Comme il dit en blague.
Même le nom du parti.
On ferme la shop ou on change de nom. Mais le constat, surtout, c'est qu'il est tanné, nous dit-il, d'être assis sur la clôture. Philippe Couillard le dépeignait avec cette image là, pendant l'élection partielle. Il est assis sur la clôture, il n'y a pas d'option. Puis la CAQ existe depuis 3 ans à ce moment-là. C'est quand même encore un jeune parti qui n'a pas terminé sa maturité programmatique, si vous voulez. Les orientations sont pas encore toutes définies. Ça se fait pas comme en criant ciseaux. Alors, et particulièrement sur la délicate question nationale, il y a des courants. Et là, c'est plus difficile d'aborder cette question-là. Alors, on a préféré la gommer depuis le début de l'existence de la CAQ, la question nationale sous toutes ses formes. Non seulement la question référendaire, mais tout le reste.
Tiens à le dire, là, l'ADQ s'est née à cause d'une scission liée au nationalisme, puis la victoire de François Legault, c'est grâce à un retour au nationalisme. Donc, le nationalisme, on a beau dire les oui et les non, c'est plus important, mais c'est quand même déterminant dans l'histoire de la troisième voie.
Ben, c'est que quand on regarde ce que les Québécois souhaitent en premier, là, ils se situent généralement dans les enquêtes d'opinion lorsque c'est testé. Leur premier choix, c'est plus d'autonomie, mais dans un ensemble canadien, dans le respect.
C'est ça.
D'une composante de l'identité multiple québécoise, mais aussi un lien avec le Canada.
Ouais.
Et bien ça, c'est ce que les Québécois...
Un Québec fort dans un Canada.
Ouais, pour reprendre Yvon Deschamps, qui effectivement avait bien saisi l'humeur des Québécois. Ça,
c'est quoi l'avenir de la troisième voie, là, maintenant? Parce qu'elle a l'air en difficulté, quand on regarde le dernier sondage, surtout. Donc, est-ce que c'est un retour à la polarisation, Pascal Mayotte?
Ben, il y a l'avenir de la CAQ comme gouvernement, l'avenir de la troisième voie en tant que telle. La troisième voie, hein, c'est une option qui se situe entre la souveraineté et le Canada tel quel, ce qu'on appelle le statu quo. Et ça, la place de la troisième voie, elle est acquise au Québec dans le paysage politique, malgré cette semaine, là, certains commentateurs remettent en question. Mais les constats qui sont à l'origine de la CAQ que François Legault a fait pour fonder la coalition, c'est-à-dire que l'option souverainiste était en déclin et que c'était une tendance lourde qui n'allait pas s'inverser là, dans un avenir prévisible, ben, ça n'a pas changé. Fondamentalement, la souveraineté est à quoi, 35%? Mais c'est surtout que c'est pas la priorité. Les jeunes y adhèrent moins.
Ça, c'est clair.
Donc, la carte de la souveraineté, le Québec l'a pas dans son jeu. Le joker de la souveraineté, là. Peut-être que Robert Bourassa l'avait.
François Legault, il y a quand même un passé qui pourrait... Certaines personnes rêvent qu'ils reviennent à ça, même si ses déclarations actuelles sont loin de ça. Écoutez, on est obligé de se laisser, malheureusement. Je rappelle le titre de votre livre, « À la conquête du pouvoir, comment une troisième voie politique s'est imposée au Québec ». On aurait pu en parler une heure. Merci beaucoup, Éric Montigny, donc, qui est professeur à l'Université Laval. Merci beaucoup, Pascal Mayotte, qui est maintenant conseiller chez TAC, qui est un ancien conseiller de Lucien Bouchard et de François Legault. Merci à vous deux. Au plaisir.
Merci.
Merci.
Au revoir.